La belle Madame Levasseur, chapitre 5. Eh bien, nous avons donc fait la conquête de l'Angleterre, cré coquin. Tu as lu l'article de Pompon ?
Vous savez bien, dit Jeanne après un temps, que je ne les lis jamais. Vous, qui les payez, cela se comprend.
Et le silence de nouveau s'appesantit, un silence de sacristie matinale, égayé de quelques tintements de burettes et de clochettes. Tous les deux, Daniel n'étant pas rentré du cirque d'hiver où l'on répétait ce matin-là une sérénade de lui pour le concert prochain, ils déjeunaient vis-à-vis, l'air un peu perdu dans la vaste salle à manger pompéienne, dont les peintures claires, les dressoirs rehaussés de bronze et de pierres dures, le couvert et ses argenteries, ses porcelaines, toutes marquées de la devise du maître « Labor improbus omnia vincit », s'animaient, s'astiquaient des courts émiettements d'un soleil lavé d'eau. Levasseur, en mangeant, parcourait ses journaux. Il en recevait une masse, tant de Paris que de province, chatouillé au vif chaque fois qu'il y voyait son nom imprimé, sa femme ou sa candidature mise au nu, encore que ce ne fût pas gratis. Par-ci, par-là, entre deux colonnes, entre deux pages, il décochait à Jeanne de petits hameçons de paroles, qu'il ramenait vides le plus souvent. Puis, avec un naïf plaisir commerçant, il se replongeait dans ses réclames. « Tu as tort, tu devrais les lire, » reprit-il, la bouche empâtée de nourriture. Il finit sa bouchée, but un verre de sauterne, et, le ton éclairci, après une remarque gourmande sur l'excellence d'un épigramme d'agneau, ajouta « D'abord, elle a un très joli style, Pompon !» Puis, recommençant à mastiquer « Sais-tu comment elle t'appelle ce matin ?»« L'Olympienne beauté !»« C'est gentil, Olympienne !» Il faudra que je l'invite à dîner. » Il continua ainsi jusqu'au dessert, qu'il fit durer, comme il en avait l'habitude, s'exclamant fort, d'une surprise quasi vraie tant elle était naturelle, sur un article de l'Indépendant de Gerville, qui lui donnait de la louange pour son argent, et, le dernier petit four croqué, ayant pris le bras de sa femme, il l'emmena dans la serre, avec ses mots appuyés d'un rire gaillard qui ne sonnait pas très franc. « Est-ce que nous sommes remontés à notre Olympe, Madame l'Olympienne beauté ?»« Mais non, vous avez à me parler ?» demanda-t-elle après un intervalle de silence. « Oui, à me parler sérieusement ?»« À te parler sérieusement. »« Oh, pas aujourd'hui, j'ai une migraine horrible !» Cela me bat dans la tête.
Bah, odi mi crasse, non, crasse tibi odi, c'est-à-dire.
Mais il s'empêtra dans sa citation et sans répondre à Jeanne, qui un peu méchamment lui en demandait le sens, il se dépêcha de renfourcher sa langue où il était mieux à cheval.
Ça ne sera pas long, dit-il.
Faites vite. Elle s'assit sur une borne de porcelaine et mit son menton dans sa main en une pose attentive. Levasseur, alors, cala ses jambes au moyen du tic de hanche dont il avait l'habitude et fit précéder d'un petit sifflement crâne cette phrase qu'il prononça des dents. Il s'agit de Daniel.
« Ah ! Est-ce que vous voudriez le marier par hasard ?»«
Non. »«
Tant pis.
Pourquoi ?»
« Parce qu'on le verrait peut-être moins. »«
Ça ne va donc plus avec lui ?»«
Est-ce que cela a jamais été ?»«
Mais au début, pas déjà si mal. »«
Vous n'êtes pas difficile. »«
Encore des bisbilles ? Voyons, conte-moi cela. »« Je voulais justement... »«
Les bons contes font les bons amis, »
acheva-t-il en riant tout seul de sa pointe.
« Je n'entends rien au calcul. » « Demandez-lui cela, à lui. L'arithmétique, la division surtout, c'est son fort. Il pourra même vous mettre cela en musique, ce sera charmant. »«
Voyons, voyons, parlons peu et parlons bien. »
dit Levasseur, dont le gros bon sens s'égarait dans ses chinoiseries. Qu'est-ce qu'il t'a fait ?
Ce qu'il m'a fait ? Mais rien. Il ne m'a rien fait. Que voulez-vous qu'il me fasse, grand Dieu ? Qu'il m'assassine ? Cela viendra peut-être.
Enfin, est-ce qu'il n'est pas convenable ?
Elle éclata d'un rire strident et répéta
« Convenable ! Convenable ! Dieu, si ! Oh, vous êtes bon, là, avec votre convenable ! Nous n'avons pas la moindre envie de jouer Phèdre, je vous jure »
dit-elle d'une voix qui sifflait.
« Il me déteste, je le lui rends, nous sommes quittes, et tant qu'il ne m'aura pas assassiné, ce dont je ne désespère pas pourtant, ces petites vilainies me seront aussi indifférentes. »
Elle chercha un peu, puis s'étant levée d'une saccade,
« Que les articles de Madame Pompon, » finit-elle. « Vous pouvez le lui dire de ma part. »
Là-dessus, malgré les instances de Levasseur, qui eût voulu la retenir et la confesser, elle sortit lentement, frôlant les feuillages qui s'ouvraient, puis se refermaient derrière elle, et gardèrent, longtemps après qu'elle eût passé, comme un grand sillon de vie et de lumière. Le soir même, Daniel, à qui son père avait fait la leçon sous forme d'une harangue pompeuse et pavoisée de latin, qu'il aurait pu intituler « Des devoirs d'un beau-fils envers sa belle-mère », car il s'accoutumait à manier le discours en prévision de la tribune prochaine. Daniel, s'étant approché de Jeanne, lui dit ces seuls mots
« Madame, si je vous ai offensée, je vous en demande pardon ».
C'était dans le hall, éclairé de tous ses lustres pour une réception de quinzaine. Un appel de danse l'avait vidé, chassant la foule vers les deux grands salons qu'on ouvrait ces jours-là avec la serre, et Daniel y était entré si doucement que Jeanne, qui, droite sur le seuil, attendait ses derniers hôtes, ne l'avait pas entendu venir. Cette voix profonde et triste, mais d'une belle ampleur grave qui la faisait reconnaître, lui causa d'abord un petit émoi frissonnant. Ayant levé les yeux, elle le souffleta d'un regard en coup de fouet.
« C'est ton père qui t'envoie ?» lui dit-elle.
« Je vous demande pardon. »
« Quel luxe de pardon ! Prends garde d'user tout le même jour, il ne t'en restera plus. »
« Mon père s'est borné à m'exposer... »«
Quoi ?
Vos griefs. »
Contre qui ?
Contre moi.
Je n'en ai pas.
Il m'a pourtant...
Il t'a trompé.
Madame.
Il s'est trompé, si tu aimes mieux. Je ne lui en ai pourtant pas ouvert la bouche. Des griefs ? Et lesquels ? Est-ce que tu n'as pas toujours été charmant pour moi ? Pétri d'attention ? Bon ? Aimable ? Exquis, enfin ? Poussant la sollicitude... finale jusqu'à me suivre dans la rue ? Lorsque par hasard nous ne sortions pas ensemble.
Je ne vois vraiment pas, mon cher, en quoi tu as pu m'offenser.
Ah, si, ta passion pour Wagner. Oui, j'avoue que cela m'est sensible. Mais franchement, les opinions sont libres, et par bonheur, les affections aussi. Bonsoir, tu m'excuseras. Si je suis maîtresse de mes affections, je suis aussi maîtresse de maison. C'est moins drôle.
De toute la semaine, ils ne se parlèrent pas, se virent peu et jamais seuls, Levasseur ayant soin de se tenir entre deux afin d'amortir les chocs possibles. Ils ne se rencontraient guère que le soir dans le monde, où Daniel, qui ne l'aimait pas pourtant, était de nouveau assidu. Une fois qu'elle l'avait vu polquer, contre son ordinaire, car il n'avait pas plus le goût de la danse que du monde, elle l'alla trouver dans une porte où il était retourné après avoir reconduit sa danseuse à sa place. Et d'un ton cassant, elle lui dit « Tu danses donc à présent ? Alors demande-moi une valse, cela vaudra mieux que des pardons. »«
Excusez-moi, je ne la sais point, » répondit-il.
Et quelques instants plus tard, la barrette de son soulier de bal s'étant défaite, comme, du même air hautain, son pied déjà posé sur le divan où il était assis, elle lui ordonnait de le lui rattacher. « Voulez-vous me permettre d'appeler mon père ? » lui dit-il froidement. Et il se leva en effet pour l'aller chercher, laissant Jeanne sans voix, sans pensée, avec, aux joues, aux yeux, une fureur de sang et de larmes. Car, en dépit de ses indifférences feintes et de ses beaux projets laborieusement bâtis, la rancune de Daniel lui était une souffrance, d'autant plus sensible aujourd'hui qu'elle était seule et comme désemparée, ayant perdu son amant, c'est-à-dire tout ce qui était repos, chaleur, appui, dans la steppe gelée de son existence vide. Sitôt pleurés les premiers désespoirs, elle avait retrouvé, surnageant, d'anciennes tendresses entêtées. Et un aiguillon singulier l'a poussée vers Daniel, une incompréhensible ardeur, peut-être seulement la curiosité de connaître ce qu'il y avait dessous cette croûte de haine, dont les piquants même la tentaient, ainsi qu'une écorce rude où l'on s'acharne. C'était à présent une possession, une envie, qui gratignait encore certains mystères inexpliqués. Son retour, d'abord. Pour quelle raison était-il revenu, puisqu'il la détestait tout autant que lorsqu'il était parti? Pour quelle raison, si Paris était nécessaire à sa position, à son amour filial, à ses amitiés, s'était-il logé rue Malesherbes? Son père le laissait libre, et la pension très large qu'il lui faisait, jointe à la petite fortune qui lui venait de sa mère, était une liberté de plus. Rien, ni personne, ne le forçait donc d'habiter avec elle. Il n'aurait tenu qu'à lui d'éviter ses coudoiements fâcheux, ses ferraillements d'œillades et de paroles, ses rencontres, qui étaient bien des rencontres, en effet, dans le sens de duels. Puis, cette surveillance dont il l'avait enveloppée dès les premiers jours. Pourquoi avait-il épié ses sorties et traversé ses amours? Afin de se venger d'une marâtre et de la faire chasser? Mais alors, il eut tout dit à son père. Cela devint une obsession, le rêve de ses nuits, le refrain de ses journées. Elle questionna son mari, les domestiques, sur les habitudes de Daniel, le suivit elle-même deux ou trois fois en voiture, enragée de ce secret qui la rongeait comme un mal. Mais rien de mystérieux maintenant dans sa vie. Des jours réglés, travailleurs, à peine dissipés, des nuits reposantes où pas une femme n'entrait. Il paraissait avoir renoncé à l'espionnage du début. Le seul fait qui put prêter aux conjectures, c'était les visites fréquentes qu'il rendait à son oncle, avec lequel son père était toujours brouillé. Alors, se rappelant que, le soir qu'il avait dansé contre son ordinaire, sa danseuse d'exception était sa cousine Cécile, Jeanne songea. « Mais il l'aime, c'est pour cela qu'il est revenu. » Et une phrase lui trotta tout un jour dans l'esprit. « Si je les mariais !» Cette idée l'enchanta. C'était de quoi occuper ses heures creuses. Et puis, Daniel marié, c'était Daniel parti. Elle en était arrivée à un état d'hérétisme tel que de le voir seulement l'effrénait et qu'elle se persuadait que, désempêtrée de lui et de son irritante énigme d'existence, sa vie à elle reprendrait ses quiétudes d'autrefois. Cette paix d'âme dont sa mémoire, dépouillant les années comme un filtre, lui représentait les douceurs un peu grises. Et avec une véritable folie de repos, doublée d'une gourmandise de femme à tripoter de l'amour, elle se jeta dans ce roman qu'elle s'entêta de conclure. Pour cela, il fallait raccommoder les deux familles. Elle n'y était pas opposée quant à elle, n'ayant ni affection ni haine envers ces gens qu'elle connaissait à peine, et ignorante qu'elle était des manœuvres au moyen desquelles le médecin, son beau-frère, avait voulu obstruer son mariage. Dès les premiers mots qu'elle en dit à Levasseur, celui-ci se cabra, se cambra, et déclara bien haut que jamais ils ne feraient un pas de leur côté. « Je n'aime pas les ingrats, » dit-il sentencieusement. Au fond, il en pétillait d'envie. Non qu'il eût une passion bien forte pour ce frère, que ses succès de collège puis de clinique avaient fait jadis le préféré de la maison paternelle. la compensation brillante au chagrin honteux pour une famille de petits fonctionnaires de voir l'aîné entrer dans le commerce, et dont plus tard la hargneuse superbe dame de science restée pauvre avait choqué ses fiertés bonhommes de commerçants enrichis. Mais cette brouille, qui n'était pas venue de lui, taquinait ses manies de bonnes règles et de chaque chose à sa place. C'était un principe chez le Vassard d'éviter les fâcheries, et son dicton préféré était qu'il faut être bien avec tout le monde. N'y avait-il pas d'autre raison? Si, une autre, inconsciente peut-être, et guère présentable, bien qu'elle pèse son poids dans l'humaine sottise. Le désir d'écraser, le mot est un peu fort, d'étonner celui qu'il appelait quelquefois par dérision Monsieur le comte de Vassard, ou le mari de Mademoiselle Le Panet de Pontblanc, en lui montrant sa femme, cette roturière, cette artiste, dont le médecin lui avait écrit pique-pendre, et qui, à sa propre estime, ne lui avait donné que plaisir et honneur. Puis son train de maison décuplé, son hôtel agrandi, tout ce luxe, enfin, qui ne remontait guère qu'au mariage et à la brouille par conséquent. Car c'était alors que, piqué de la tarentule politique, il avait mis ses filatures en action, et c'était, ainsi qu'il disait, payer une femme magnifique, afin d'élargir ses horizons. Son frère ne connaissait rien de cela que par les journaux, et encore. Avec ses opinions, lisait-il seulement ceux où il était parlé de la belle Madame Levassard. Ça avait été le petit déboire de ces dernières années, de ses récents succès. Son prix de Rome, sa croix d'officier après l'exposition, le petit chagrin de ses embellissements intérieurs. Lorsqu'il avait acheté son premier 8 ressorts, la première rivière de Jeanne, meublé son hall avec la collection Stankiewicz, bâti sa serre et ouvert ses salons, de penser « il ne verra pas ça, il ne saura pas ça ». Et peu de choses lui étaient plus agréables que cette phrase de Jeanne quand elle rentrait, le soir, « j'ai rencontré votre frère » ou « votre belle-sœur ». « Quelle robe avais-tu ?» lui demandait-il aussitôt. « Quelle robe avait-elle ? Dans quelle voiture étais-tu ? Avec quels chevaux ? T'ont-ils vu ? Étaient-ils à pied ?» Si elle répondait « oui, ils allaient monter en omnibus. » Elle avait son même vieux chapeau. Il était crotté jusque-là. C'était des rires sonores, aiguisés des 1000 petites blessures d'amour-propre du négociant. Ministériel de nature, regardé de haut jadis par ce frère légitimiste et docteur, qui, en retour des réceptions, des dîners, en retour des étrennes vaniteuses, dont lui, le Vassard, payait les quelques conseils de santé qu'il demandait par pure condescendance, ayant un autre et plus grand médecin, ne lui avait épargné ni lardon, ni coup de patte, et avait su être piquant jusque dans la façon dont il prononçait « la rouge » ou « le commerce ». Jeanne ne se tint pas pour battue. Le lendemain, elle revenait à la charge, et cette fois, obtenait en réponse une phrase qui était presque un consentement, malgré l'ultimatum de sa forme. D'abord, c'est à lui de venir, puisqu'il est le plus jeune. Ceci en poche, les autres sondés à l'avance par des amis communs, elle se rendit un jour rue Cassette, où ils habitaient un 5e délabré, et demanda à voir sa belle-sœur. Madame Eugène l'accueillit tièdement, selon les recommandations du médecin, qui avait passé une semaine à lui apprendre son rôle. Mais c'était une femme tout cœur et de premier mouvement. Jeanne ne fut pas plutôt assise dans le salon de velours grenat, devant un petit feu de briquettes économiques, qu'elle bondit de son fauteuil et, lui sautant au cou, pensa la noyer de ses larmes. Blanche, voyant pleurer sa mère, se dépêcha de suivre un si bon exemple, et ce ne fut pas trop de la belle gaieté de Cécile pour sécher ses inondations. Monsieur Eugène avait posé les bases d'un traité de paix. Lui aussi, après avoir déclaré que jamais il ne ferait un pas vers son frère, un ingrat, que pendant 25 ans il avait soigné gratis, s'était laissé aller à dire cette fameuse phrase que son orgueil retournait ainsi. D'abord, c'est à lui de venir, puisqu'il est l'aîné. En son fort intérieur, il la souhaitait aussi, cette réconciliation, qui devait servir ses projets de mariage entre Daniel et Cécile. La situation, au surplus, avait bien changé depuis 4 ans. Les écarts de conduite de Jeanne, dont le bruit diminué était venu jusqu'à lui, bien qu'il ne lût ni feuilles rouges ni feuilles à scandale, et ne s'aventura que le moins possible dans les salons malpensants, avait presque égalisé les niveaux entre ce qu'il appelait l'impudente fortune de Ferdinand et son injuste malchance. Tant qu'elle était restée impudente, cette fortune, il s'était tenu volontiers à l'écart, se bouchant les oreilles et les yeux, lorsque, au hasard de ses courses médicales, il croisait sa belle-sœur en voiture ou passait non loin de leur hôtel. Mais, aujourd'hui que cette fortune avait du plomb dans l'aile, et clochait enfin par quelque endroit, il n'était pas fâché de la voir de plus près et de se gaudir en son appart des misères fraternelles. Il y a bien du féroce et du carnassier souvent au fond de ces petites brouilles de famille. Aussi, l'on eut vite fait de signer les préliminaires et d'arrêter le cérémonial des premières visites. Celle de Jeanne devant être passée sous silence, comme un coup d'essai qui ne pouvait pas compter. Afin de ne point heurter de front des susceptibilités en éveil, on convint de laisser au sort le soin de décider celui qui commencerait. Le docteur fut désigné, et il eut à ce propos un mot cruel, que, dans le paroxysme aigri d'une mauvaise chance acharnée, il lâcha en présence de ses filles, quoique le mot, pour être du grand siècle, ne fît pas partie de sa méthode enseignante. Les visites échangées, comme des visites de souverains, à 3 heures d'intervalle, 2 invitations lancées à la même minute arrivèrent. L'une rue Cassette, un petit carton de chez Stern gravé de la formule officielle, Monsieur et Madame Ferdinand Levasseur ont l'honneur de, etc., etc. Au-dessous d'un labor in probus enrubanné d'argent mat. L'autre, rue Malesherbes. 2 pages d'une écriture modèle de petite fille qui s'applique sur du papier anglais provenant du bon marché. Madame Eugène, en une langue châtiée qui sentait le brouillon revu et corrigé par un mari solennel, y priait son cher frère et sa chère sœur, ainsi que Daniel, de leur faire le plaisir de venir dîner chez eux, si toutefois la perspective de leurs 5 étages et d'un repas modeste, quoique offert de bon cœur, ne les effrayait pas trop, eux qui étaient accoutumés à tous les raffinements. Après avoir regretté en 5 lignes de ne pouvoir donner mieux, elle finissait par cette phrase où se devinait le bistouri du docteur. Malheureusement, par le temps qui court, la science n'est pas millionnaire. Le sort ayant favorisé d'abord la rue Malesherbes, il avait été entendu, cette fois, que la rue Cassette débuterait. C'est pourquoi il y eut un peu de panique, un soir du commencement de mars, au 5e étage d'une maison vieillotte avec un air de province, lorsque 2 jeunes filles, pimpantes dans des robes roses pareilles, dont elles avaient débagué les plissés à l'instant et recueilli un par un les faux fils, ayant entendu le fracas rapproché d'un landau, firent en même temps « Les voilà !» Madame Eugène, accroupie devant le feu du salon qui fumait, se releva vite afin d'avertir Virginie, la bonne. Et le médecin, qui par politesse n'avait rhabillé que d'une simple rosette d'ordre son frac et sa cravate blanche immuable, s'en fut à la salle à manger, veiller au vin et aux places. Le coup de sonnette ramena tout le monde à son poste.
Mais alors, Madame Eugène se ressouvint qu'elle n'avait pas dit pour l'ordre des plats, et elle s'en allait y courir quand d'un coup de menton son mari la réincrusta dans sa chaise, où elle fut bien près de fondre en larmes. Cependant, assez de force lui resta encore pour remonter les deux lampes et faire signe à Blanche de fermer la fenêtre laissée ouverte, crainte de la fumée. À ce moment, un petit brouhaha de voix et de frou-frou arriva de l'antichambre et le bouton de porte remua dans la main du serveur. « Droite, mesdemoiselles !» recommanda le médecin dans cette minute tragique qui précéda l'entrée. L'abord des deux frères, qui ne s'étaient point rencontrés encore, les visites d'hommes s'étant bornées à un échange de cartes, faillit compromettre un peu le raccommodement. La faute du cérémonial qui avait omis de régler ce point très essentiel. Lequel des deux, du cadet ou de l'aîné, tendrait la main à l'autre? L'aîné penché pour le cadet pour l'aîné. Et si Daniel et Cécile, en leur belle fougue de jeunesse, n'avaient pris chacun son oncle par le cou, si la fumée qui faisait diversion n'avait nécessité la réouverture des deux fenêtres, il est douteux que ce dîner on l'eût mangé ensemble. « Madame est servie !» cria fort à propos un serveur à moustache. Et l'on passa bras dessus, bras dessous, dans la petite salle mesquine, dont la suspension de cuivre à bougie affichait les pauvretés luisantes, le papier velours, les natures mortes, le meuble de vieux chêne et la savante symétrie d'un couvert de rencontre, avec des réchauds prêtés et des fleurs chlorotiques. Les débuts furent pénibles, encore que le Vassard, de parti pris, déclara tout très bon, et que Jeanne, en noir et sans bijoux, malgré son mari qui l'eût voulu plus belle, se montra très gracieuse entre Cécile et le docteur. Celui-ci, qui ne s'était assis comme sa femme et ses filles qu'après la muette oraison du bénédicité, ne desserrait pas les dents. Ayant remarqué que son frère rendait à chaque plat sa fourchette, une inquiétude colère le tenait. Y aurait-il la rechange jusqu'au bout? Tandis que sa femme naïvement interrogeait tout le monde sur la qualité des mets ou le degré de cuisson, chatouillée aux larmes par les « parfaits, parfaits » de son beau-frère et les compliments d'une charité plus délicate de Jeanne et de Daniel, qui l'un et l'autre affichaient des apparences de gaieté. Le champagne, bien qu'on l'eût servi mal à sa place, au rôti, désengourdit un peu le médecin qui aborda l'épidémie régnante et le dernier bulletin de la mortalité. « Moi, je soigne mes fièvres typhoïdes par les bains froids, » dit-il. « Sur 20 cas dans ma clientèle, j'ai eu 19 guérisons. Entre autres, la fille de la marquise de Barban. Tu en as entendu parler ?» finit-il en fixant son frère, qui évita de répondre. Juste comme on attaquait un sujet moins funèbre et qu'une phrase de Cécile « Eh bien, Daniel, la Notchny, l'a-t-il lu enfin, ce monstre de Monsieur Roumiguière ?» allait peut-être échauffer les conversations, Monsieur Eugène fit des yeux à sa femme et un silence tomba. Les légumes, des petits pois conservés, sentaient le rance. « Je les prends pourtant chez Potin. C'est drôle, ils sont toujours si bons, » fit Madame Eugène, qui, se tournant vers sa belle-sœur, ajouta « Et vous, où les prenez-vous ? » « Mais je ne sais pas, » dit Jeanne, qui, à la vue du regard fâché du médecin, se hâta de parler d'autre chose. Le dîner s'acheva sans accroc. Or, un peu d'entracte entre le pâté de foie gras et le parfait. Et, après les grâces murmurées in petto par la branche cadette, on revint au salon refroidi à une température de glacière par les deux fenêtres battantes. « Je crois que tu es fumeur ?» demanda le médecin à son frère. « Oui, et toi ?»«
Moi ? Oh non ! Comme médecin et membre de la Société contre l'abus du tabac, Tu n'as donc pas lu ma brochure sur les ravages de la nicotine? Je te la donnerai, tu verras. On ne saurait croire le nombre de maladies qui ont pour principe... » Il l'emmena à côté dans un étroit cabinet de consultation, sans tapis et sans feu, qui gardait une odeur féniquée de chambre de mort. Et lui ayant offert un cigare, acheté spécialement le jour même et installé sur l'Hippocrate de la pendule entre un spéculum et une trousse à injection morphique, il s'assit, plus bilieux, plus jaune encore que de coutume, sous le tremblotement de lumière des deux bougies de la cheminée, en face de son frère qui fumait, transi, regardant blanchir sa cendre. Ils restèrent là une heure, causant à peine, séparés par leurs années de fâcherie, éprouvant la gêne de deux hommes qui se seraient parlé de loin par-dessus un grand mur sans se voir. Un prélude en sourdine, dont les notes affaiblies firent vibrer la cloison, les rappela, alors que, de guerre lasse et tous les autres sujets généraux épuisés, ils allaient à leurs risques et périls aborder les questions religieuses ou politiques. Lorsqu'ils rentrèrent, Cécile était au piano avec sa sœur et jouait à quatre mains l'ouverture de La Gazza, apprise pour la circonstance. Daniel, debout, tournait les pages. Cela marchait très bien dans une jolie teinte claire d'épinette, mais la brusque arrivée de son père émotionna tellement Blanche, qui faisait la basse, qu'elle brouilla un trait, perdit deux mesures, s'abîma en fausse note et, sur un sévère « Qu'est-ce qu'il vous prend, mademoiselle ?» se mit à sangloter. Dans le code impitoyable du médecin, cette grave infraction à l'harmonie et aux convenances entraînait le bannissement. Et il fallut l'intervention de Jeanne pour que son beau-frère consentît, par exception, à ne pas appliquer ce qu'il appelait son « tarif proportionnel » et commua la peine en une petite pénitence enfantine, se tenir droite dans un angle derrière un rempart de sièges retournés. « Allez remercier votre tante, mademoiselle, et qu'on ne vous entende plus !» Cependant, Jeanne avait pris Cécile à part. « Alors, comme cela, vous vous aimez ?» lui dit-elle tout bas à l'oreille. Et la jeune fille, hésitant à répondre, les yeux glissés de coin vers Daniel et son rire ordinaire figé dans une rougeur, elle ajouta « N'ayez pas peur, il vous aime et... » Mais elle n'eut pas le temps de finir. Si vite arriva la riposte. « Oh, vous croyez, ma tante? Vrai, vous croyez ?» Et il y avait tant d'amour, de bon, de chaud, de loyal amour dans ces petits mots courts jetés à voix perdue, que Jeanne en ressentit comme une chaleur en retour. « Veux-tu faire un whist ?» interrogea le médecin. Son frère lui ayant répondu « Mais volontiers !» il donna du menton un ordre à Cécile, qui, dans les allées et venues des cartes à préparer, de la table à ouvrir, s'arrangea pour glisser en cachette un bonbon à sa sœur prisonnière. Madame Eugène y aurait bien voulu joindre un baiser ou deux, et sous prétexte d'allumer les bougies, elle passa très près de sa pauvre Blanche. Mais son mari s'étant tout à coup retourné, elle eut un mouvement de retraite si brusque que le chandelier qu'elle tenait lui échappa des mains. « Vous ne savez donc pas tenir un flambeau à votre âge ?» aboya le médecin. Puis, d'un ton de commandement, « Cécile, on vous attend, mademoiselle. »« Au moins, viens me conseiller, » dit la jeune fille, qui se voyait contrainte de quitter la causeuse, où, son petit ménage fini, elle s'était assise avec Daniel. « Je ne demande pas mieux, mais le whist et moi, tu sais, nous ne sommes pas cousins. »« Puisque nous le sommes, nous, » murmura-t-elle, en s'installant vis-à-vis de son oncle qui tirait la donne. À peine Daniel eut-il pris place que le médecin, qui se piquait de musique, demanda « Est-ce que nous n'entendrons pas le petit Mozart ce soir ?»« Si cela ne vous gêne pas, je veux bien, » dit Daniel, qui alla s'asseoir au piano. « Quelque chose de toi, n'est-ce pas ?»«
Alors, mettant la pédale sourde et s'accompagnant de quelques accords légers qu'une petite phrase répétée et plaintive éclairait parfois, Daniel commença d'une voix pâle ce rondeau d'un vieux poète. « Le voulez-vous que votre soit ?» Jeanne était au coin du feu près de sa belle-sœur, qui, depuis le dîner, lui contait ses ennuis de ménage. Trois bonnes renvoyées en 6 semaines et les exigences de la nouvelle. « Croiriez-vous que je donne 40 francs aujourd'hui, sans le vin ?»« Ah ?» dit Jeanne distraite. « C'est comme cela, et encore, il faut voir le service. Eugène prétend que c'est la rouge. » Ensuite, elle parla de ses bobos. Elle ne pouvait pas rester 5 minutes debout sans avoir des douleurs terribles. Et quand on avait des filles à conduire dans le monde... Puis, de ses généalogies de famille, elle était allée au marquis de la Maisonneuve et descendait de cette fameuse Gabrielle qui, sous Henri IV, ou sous Henri V, non, plutôt Henri IV. Jeanne faisait « oui » seulement de la tête et n'écoutait que Daniel. C'était maintenant comme une prière douce qui montait du soupir des notes, avec une mélancolie de chant lointain qu'on entendrait sous l'eau. Et toujours la petite phrase lumineuse, toujours les accords légers qui ensemblaient la trame, et ces câlins mots d'amour répétés de la même voix pâle à la ritournelle. « Le voulez-vous que votre soit ?» Elle regarda le chanteur et ne le reconnut pas d'abord, tant il y avait d'apaisement dans ses traits, de bonté sereine dans ses lèvres entr'ouvertes et dans ses paupières mi-fermées, qu'une clarté de lampe, adoucie par un abat-jour rose, faisait presque diaphane. Une poussière de sourire était comme répandue parmi les bouclettes plus blondes de sa barbe. Et à un moment, ses yeux noirs s'étant levés avec sa voix qui s'enflait, une sorte de rayonnement de feu en jaillit, dont elle demeura troublée. « Le voulez-vous que votre soit ?» Jamais elle ne l'avait vu ainsi. Peut-être parce que jamais elle ne l'avait ainsi regardé. Et elle le trouvait beau, d'une beauté grêle et forte, pourtant de page d'autrefois. Une toque aurait bien fait sur ses cheveux sans raies, coupés courts, une fraise autour de son cou aussi blanc qu'un cou de femme. Et alors, oubliant ses rancunes, elle songea qu'elle aurait bien voulu être la femme qu'il aimerait. « Le voulez-vous que votre soit ?» Il chantait toujours, et peu à peu, emporté au vol de cette voix, Jeanne perdait pied, s'en allait loin, loin de ce salon bourgeois, des changements de bonne et des généalogies de famille, de ces gens qui jouaient, de ce petit tric-trac de jetons et de paroles, et montait dans quelque chose de bleu, d'immensément bleu, d'éternellement bleu. Une dispute qui s'éleva la fit choir de son rêve. Elle leva la tête, et ayant aperçu Cécile honteuse, que son père grondait à cause d'une renonce, elle eut comme un grand froid, en pensant que c'était elle qu'il aimait. La porte s'ouvrit. C'était le thé qui entrait, dans les bras du serveur à moustache, suivi de Virginie, une grosse, coiffée d'un bonnet à ruban, qui avait quitté son tablier, et, de ses mains violettes, portait la brioche comme un Saint-Sacrement. Celle-ci ressortit la première. Presque aussitôt, un coup de sonnette éclata dans l'antichambre. Il y eut un petit parlement à voix basse, et Virginie, revenant, dit « On demande monsieur chez madame la comtesse de la Motte, rue madame. » Le médecin fit un air accablé, et levant les épaules, il s'emporta contre un métier de galérien qui ne lui permettait pas même de recevoir tranquillement sa famille. « Bah, nous pouvons bien finir la partie, » acheva-t-il, sans se déranger autrement pour cette malade de convention et de parade complotée d'avance avec la bonne. Sur un signe de son père, Blanche, quittant son coin, commençait à offrir alternativement du thé et de la brioche. Daniel, qui venait de finir, l'aidait, tenant le sucrier et la crème. Lorsqu'il vint à Jeanne,
Elle refusa des yeux sans lui rien dire, et il la vit qui buvait son thé, où il n'y avait pas de sucre, l'air étrange et comme un peu grise. « Ah, que c'est beau ce que tu as chanté là !» fit Cécile quand il passa près d'elle. « Oui, pas mal, pas mal. En quel ton est-ce, mademoiselle ?» demanda le médecin. « Répondez tout bas. Bien. Toi, Blanche, en quel ton ?» Daniel lui souffla « Ré bémol !» Mais elle entendit de travers et soupira « Ré dièse !» Heureusement, la partie finissait et le médecin s'absorba dans les comptes. Ayant achevé l'addition au crayon sur un coin de journal, il fit « Je perds 27 fiches !» Ce fut le signal du départ. Le gagnant empocha ses 27 sous, accompagné de cette réflexion aigre-douce de son frère. « Tu dois le jouer à 20 francs à ton cercle. Voilà ce que c'est, mon cher, que de dîner chez un homme de science. »
« Oh, 20 francs, très coquin, 20 sous, oui, c'est bien assez !»
repartit le vassard dans un spasme de rire étranglé. Son orgueil en largeur se brisait contre le coupant de cette fierté mince et tout en hauteur comme une lame. « Voulez-vous qu'on aille chercher une voiture ?» interrogea Madame Eugène, qui n'avait pas beaucoup de tête. Mais son mari lui décocha un regard si noir que les jambes lui manquèrent et qu'elle retomba dans son fauteuil, sans oser embrasser sa belle-sœur. Regardée de bas d'abord, comme une statue placée très haut, mais dont les façons simples l'avaient prise. Lui se hâta de corriger cette question imbécile en un « Vous avez votre landau ?» À l'exception de ceux de Daniel et de Cécile, les adieux furent de glace. Cette voiture avait déséquilibré les niveaux, rétabli les sommets. Dehors, le vassard éclata.
« Hein ! Quelle sauce ! Le poisson, très coquin !»
Puis, lâchant la bonde à sa gaieté contenue, il partit d'un rire gras, d'un rire colère.
« J'aime encore mieux, » dit-il, « le beurre du commerce et de la rouge. »
Comme ils arrivaient à l'entresol, en haut, sur le palier du cinquième, un fin soprano chanta « Le voulez-vous que votre soit ?» Mais une voix de roquet ayant crié aussitôt
« Cécile, eh bien, voyons, mademoiselle !»
Il fallut bien dire « Oui, papa !» fermer la porte et rentrer sans réponse. 3 jours après, le dîner eut lieu rue Malesherbes. On avait ouvert un salon, allumé le hall, le billard et la serre, et le vassard avait, suivant son habitude, pioché le menu avec son chef de cuisine. « Je tiens à leur montrer comment on reçoit dans le commerce, » avait-il dit. « Et à Jeanne, tu mettras des diamants, je le veux, crée coquin. Ce n'est pas une raison parce qu'ils sont gueux. S'il avait travaillé comme moi, monsieur mon frère, labor in probus, je ne connais que ça. » Le repas fut écrasant, selon le mot de Madame Eugène. Bonne femme, elle ne goûta point d'un mets sans en faire des « Hein, Cécile ? Hein, Blanche ? Hein, Eugène ?» Ce qui, joint à la belle ordonnance du service, aux culottes et aux aiguillettes des valets, à la haute mine du maître d'hôtel, à l'excellence des vins, aux éblouissements de la vaisselle plate et à un extraordinaire assemblage de primeurs de choix, enragea si fort le médecin que, crevant de bile au dessert, il se jeta dans la politique et cribla d'ironie et de sarcasme ce ministère d'infâme libre penseur, ou plutôt libre malfaiteur, qui, non content d'avoir bouleversé tout, prétendait tout détruire, après les institutions, les croyances, après les symboles, Dieu lui-même. Aussi bien celui-ci ne s'en portait pas plus mal, et cela ne l'empêchait pas de se manifester à Lourdes. Encore 2 miracles cette semaine, une cataracte et un polype du nez, guéris par simple immersion. Quant au gouvernement, Dieu merci, c'était le commencement de la fin, il y avait des prodromes, tout le monde se plaignait, rien n'allait. « La Rouge est bien malade, » continua-t-il, « et ce ne sont pas les sous-vétérinaires de la chambre qui la tireront de là. » Il finit d'un air d'augure, « Le roi sera à Paris avant peu. » Partout ailleurs qu'en son hôtel, le Vassar se serait regimbé. Comme ancien impérialiste, ancien catholique pratiquant, il avait très sensible cette peau républicaine, poussée sur le vieil épiderme, et en cachait soigneusement le neuf sous des outrances de fureur contre la calotte et la réaction. Mais il était chez lui, décidé à éviter les brouilles. Il se contenta donc de quelques ripostes goguenardes à l'adresse d'une superstition qu'il ne se permettait pas de qualifier et d'une monarchie aussi démodée que fossile. « Ce sera pourtant un jour le salut de la France, » dit le médecin toujours agressif. « Oui, le salut des gladiateurs avant de mourir. Ave, César !» Son frère, alors, se lança dans une digression historique, rappela Louis XIV et le traité de Nimègue, 1678, panachant ses phrases de date juste, de faits précis et tranchants comme des coups de scalpel. Et le Vassar, épouvanté de cette érudition, craignant au surplus d'y perdre de ses avantages de fortune, préféra battre en retraite et convenir que la monarchie avait fait de grandes choses. Les derniers spectacles servirent de transition. « Avez-vous été au gymnase ?» demanda Jeanne. « Non, » répondit Madame Eugène, « nous n'allons qu'à l'opéra comique. » Et, comme on causait des actrices, « Qui donc ?» dit le Vassar. « Fait la maîtresse, cette belle blonde qui s'habille si bien. Marie, Marie... » Cécile intervint étourdiment. « Marie Magnier » acheva-t-elle de toute sa jolie voix. Mais aussitôt elle devint très rouge sous le regard courroucé de son père. « Comment connaissez-vous cette personne, mademoiselle ? Répondez, voyons, comment connaissez-vous ? » Et il demanda cela d'un tel air que, devant même que sa sœur eût expliqué la chose par la lecture d'une affiche et une rencontre à la caisse 1 du bon marché, Blanche en fondit dans son assiette. Par chance, on se levait de table, au moment, et elle échappa les rigueurs paternelles, grâce aux cérémonies de va-et-vient des bras à offrir pour passer dans la serre. « Allons, venez que je vous montre mon Cluny, » dit le Vassar, dès qu'on eut pris le café. Et, ayant emmené tout son monde dans le hall, il ne lui fit pas grâce d'une pièce de la collection Stankiewicz, enchanté des admirations bavardes de celle-ci, des indignations refrognées de celui-là, qui, accentuant encore sa froideur, comme il faut, pour mieux marquer le commun parvenu de son frère, se bornait à répondre au « Est-ce beau, ça ? Est-ce de l'époque, ça ?» par un très froid « C'est possible, je ne m'y connais pas. » De retour au salon, tandis que les hommes faisaient une partie de billard, Jeanne s'occupa d'organiser des jeux. Mais, après avoir pris place à la table, on s'aperçut qu'on n'avait point d'argent. « Attendez, je vais en demander à ces messieurs, » dit-elle, en traversant le salon pour gagner le billard. Debout près de la porte, Daniel marquait les points au tableau. Lorsqu'il vit sa belle-mère, il vint au-devant d'elle. « Vous voulez quelque chose ? » demanda-t-il d'un ton très doux qu'elle ne lui connaissait pas. « Oui, des petites pièces. À nous quatre, là-bas, nous avons juste 10 sous. « Tu n'en aurais pas quelques-unes, des petites pièces ?»« Mais si, vous en faut-il beaucoup ?» Lorsqu'il tira sa bourse, quelque chose qui brillait tomba de sa poche en même temps. Il le ramassa aussitôt. Puis, son regard s'étant croisé par terre avec celui de Jeanne, il pâlit un peu, et, l'air embarrassé, fit « Je crois que cela vous appartient. » Et il lui tendait son anneau d'or. « C'est Joseph qui me l'a remis hier. J'avais oublié. » Il traîna les derniers mots, car il savait mal mentir. Et ce n'était pas la veille, mais bien 6 semaines avant.
que, rencontrant Joseph dans la serre, celui-ci lui avait donné le bijou qu'un jardinier venait de trouver sous des mousses. « J'allais le monter à monsieur, » avait dit le valet de chambre, « mais dès l'instant que monsieur Daniel... » Et il avait accompagné ces mots d'un petit gloussement satisfait. Jeanne eut une secousse intérieure en recevant dans sa main cette bague qu'elle avait bien reconnue. Elle ne broncha pas pourtant, et la lui ayant rendue, de sa voix lente d'une hauteur calculée, elle répondit « Je ne sais ce que c'est. » « Pourtant, » fit Daniel. « Et pourtant, quoi ?» Ils se fouillèrent des yeux un moment. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc ?» interrogea le vassard qui approchait, surpris de leur silence et de leur attitude. Jeanne eut très peur. Un froid de mort lui coula dans les veines et son cœur s'arrêta. « Vous ressemblez à deux petits coqs en colère, » continua le vassard. « Daniel, veux-tu répondre ? Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Mais rien, »
fit-il en cachant l'anneau dans sa bourse. Jeanne ne vit pas le mouvement, mais elle le devina. Et, rassérénée soudain, elle eut une attaque de rire nerveux, douloureux, cassé.
« Que vous êtes amusant, mon ami! Croyez-vous pas que nous allions nous battre?
Je demandais à Daniel des petites pièces. Nous en manquons absolument. » La soirée s'acheva mieux que rue Cassette. Monsieur Eugène, que le billard ne favorisa pas plus que le whist, se vengea de sa malchance en éblouissant son frère avec le récit d'un bal, rue de Babylone, dans le somptueux hôtel de la duchesse de Grandvaux, dont la fille était devenue par mariage une petite cousine de sa femme, et en lui décochant, après, quelques flèches médicales dans le goût de celle-ci. « Tu devrais modifier ton alimentation. C'est malsain d'être millionnaire.
On mange trop et trop bien.
Moi, comme médecin... » Et il prononça une ordonnance sévère, un régime à suivre, basé sur la constitution sanguine de Levassard, travaillé de gouttes et d'échauffement. « Tiens, fais comme moi, n'aie qu'un plat à ton dîner et mouille ton vin. Lève-toi de bonne heure et couche-toi tôt. Sors peu en voiture, beaucoup à pied. Un peu moins de plaisir, tu me comprends. Un peu plus d'exercice et tu m'en diras des nouvelles. Est-ce que j'ai la goutte, moi ? Est-ce que je suis échauffée, moi ? Je sais bien que nous n'avons pas le même tempérament. Toi, tu as pris celui de notre père, qui était parvenu cependant à attraper la soixantaine. Mais comme il se surveillait aussi !» Grâce à ce petit nivellement féroce qui remit le millionnaire à l'égalité de la mort, le docteur était presque souriant lorsqu'il demanda une voiture. « Qu'on prévienne le cocher que c'est pour aller au faubourg Saint-Germain, » dit-il, car il avait la prétention d'habiter le faubourg. Et il ajouta « Trouve-t-on seulement des voitures dans ton diable de quartier ? C'est moi qui ne voudrais pas habiter si loin de tout. » Le lendemain, pendant le déjeuner, on apporta à Levassard un large carton sous enveloppe. « De la part de monsieur le baron Joly, » dit le valet en présentant le plateau. L'ayant décacheté, Levassard lut rapidement. Puis, la figure épanouie, après un « Écoute ça, ma reine !» il recommença à haute voix. « Château de Montplaisir, par Triel, Seine-et-Oise, au nom de S.A.R.I., Monseigneur le prince de Chypre. » Il s'arrêta, afin de juger de l'effet. Et, quittant son lorgnon, « C'est pour jeudi une invitation de chasse. J'espère que tu vas te faire belle. La street en est, je crois, et le ministre probablement. Ainsi, attention. Tiens, mais, et le petit Mozart ? On l'a oublié. » « Oh, dit Daniel, on sait que je ne suis pas chasseur. N'importe, si tu voulais, j'écrirais un mot au baron. Merci, j'ai justement quelque chose ce jour-là. » Jeanne n'avait pas rencontré le prince depuis la matinée de Madame Hervé, de la Moselle, et la pensée de le revoir la laissa parfaitement calme. non qu'elle fût aussi indifférente qu'elle le voulait paraître à ce que son mari appelait la conquête de l'Angleterre. Les femmes, même les plus vertueuses, ne font jamais fi des conquêtes, de celles-là surtout. Mais elle était en un de ces jours de dégoût, de flottement, où son âme tombait après des secousses de pensée. Elle alla sans plaisir commander son costume, se demandant même si elle l'utiliserait. « Cela dépendra du temps, » se dit-elle. Puis, la veille de la chasse, comme elle descendait de chez elle, ayant à sortir de bonne heure pour une douche qu'elle prenait maintenant afin d'apaiser ses nerfs, elle trouva Daniel dans le vestibule où il avait l'air d'attendre. « Est-ce que vous irez demain ? » dit-il après l'avoir salué. « Mais, je pense, pourquoi cette question ? » ?»«
Pour rien, pour savoir. »
« Cela te déplaît ? » ?»«
Nullement. » »«
Alors, tu me donnes la permission ?»«
Je n'ai pas de permission à vous donner. »
Il répondit cela d'un ton qui la blessa. Que signifiait cet interrogatoire ? Quel droit avait-il donc sur sa vie ?«
Drôle de garçon, » pensa-t-elle. « C'est parce qu'il n'est pas invité. »
Cela donna du piquant à la chose. Une coquetterie lui vint pour ce beau prince si galant. Et, ayant trouvé affreux son costume commandé, elle s'en fit faire un autre, dès le matin, sur une idée à elle. De toute la journée, ne songea qu'à cet habit de chasse, revint trois fois l'essayer, courut le palais royal et la rue de la paix afin de découvrir des boutons, des bijoux assortis. Le soir venu, cette fièvre tomba, et Daniel lui aurait dit « N'y allez pas ». Qui sait ce qu'elle eût répondu ?